Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le vendredi 3 décembre 2021. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Et oui, pour une fois, je commence un épisode en ouvrant l'armoire à archives de La Loupe. Alors, section internationale, la zone Pacifique, non, les Russes en Afrique non plus. Ah, voilà ce que je cherchais. Il y a quelques semaines, on vous avait raconté qu'Angela Merkel laissait à son successeur à la tête de l'Allemagne des cadeaux empoisonnés, dont celui-ci.
La chancelière s'est présentée pendant des années comme la chancelière du climat et on s'est aperçu qu'elle n'avait pas fait grand-chose donc, dans ce domaine. Disons qu'elle a repoussé les dossiers. Donc la population a pris conscience de ça, et surtout les jeunes, hein, les jeunes qui sont descendus dans la rue pour réclamer des plans climatiques à la chancelière. On se retrouve à la fin de l'ère Merkel avec un gros dossier qui est maintenant la charge du prochain chancelier.
À l'époque, on n'avait pas encore le nom de ce prochain chancelier. Aujourd'hui, on le sait, c'est Olaf Scholz. Il va donc récupérer, entre autres, cet épineux dossier de la lutte contre le réchauffement climatique. Sauf qu'il y a un hic. Olaf Scholz s'est opposé pendant toute sa carrière aux écologistes. Comment ce nouveau chancelier va-t-il se mettre au vert malgré lui? C'est la question qu'on passe à la loupe aujourd'hui. La voix que vous avez entendue dans l'archive en introduction, c'est celle du correspondant de l'Express en Allemagne, Christophe Bourdoiseau. Hallo Christophe.
Guten Tag, bonjour.
Christophe, donc tu es en ligne depuis Berlin. Et pour nous accompagner, j'ai à mes côtés en studio Clément Dagnès, spécialiste de l'Europe à l'Express. Tu sais dire bonjour en allemand, toi?
Ja, ich spreche ein bisschen Deutsch. Guten Tag, Xavier.
Eh bien, bonjour Clément. Clément et Christophe, vous avez signé ensemble un grand portrait d'Olaf Scholz pour l'Express. Et pour l'écrire, Christophe, tu es allé à Hambourg. C'est la ville où le futur chancelier a grandi et dont il a été maire entre 2011 et 2018. D'abord, est-ce que tu peux nous raconter, Christophe, ton arrivée à Hambourg?
Oui, c'était très intéressant parce que d'abord, bon, il y avait des grèves en Allemagne, ce qui était assez rare, des grèves du train. Donc j'ai dû prendre ma voiture pour me rendre de Berlin à Hambourg, qui fait à peu près 3 heures de route. Et je me suis dit que j'allais avoir des problèmes pour me stationner à Hambourg, puisque je me retrouvais au centre de la ville où j'avais tous mes interlocuteurs. Et en arrivant à Hambourg, j'ai eu la surprise de trouver au centre de Hambourg, dans une petite rue, une place pour ma voiture. Je suis donc descendu en cherchant, j'ai cherché le rodateur. D'abord, j'ai cherché à savoir si je pouvais me garer dans le centre de Hambourg. Et puis, je ne trouvais pas de rodateur. Donc, j'ai demandé au riverain où est-ce que je pouvais payer mon ticket. Ils m'ont dit, mais non, vous pouvez vous garer gratuitement au centre de Hambourg, sans problème.
Il n'y a pas de rodateur au centre-ville de Hambourg?
Dans le centre-ville, il n'y a pas de rodateur. On a une majorité des rues. Donc, j'étais vraiment à côté de la rue commerçante et où il y a tous les restaurants. Donc j'ai redemandé à l'hôtel si c'était effectivement exceptionnel. Mais non, tout le quartier est comme ça pour l'instant.
Ça, c'est quand même fou, parce que dans toutes les grandes villes françaises, a fortiori à Paris, il n'y a pas de place de stationnement sans euro d'heure ou sans devoir payer pour pouvoir garer sa voiture.
Oui, un parking totalement gratuit et libre en centre-ville d'une métropole européenne, c'est assez anachronique au XXIe siècle. Je voulais que tu nous racontes cette anecdote pour commencer, Christophe, parce que en fait, elle dit tout de la vision d'Olaf Scholz en matière d'environnement.
Oui, l'environnement, ça, en fait, ça ne l'a jamais intéressé. Ce qu'il voulait, c'est faire du social dans sa ville. Donc, la voiture, c'est important pour lui. La voiture, c'est social. C'est pour permettre aux banlieusards et aux gens avec des revenus modestes de venir au centre-ville en voiture, tout simplement.
Et c'est pas tout, Christophe. Pendant son règne à la mairie de Hambourg, Olaf Scholz a pris à peu près toutes les décisions anti-écologistes possibles.
On peut dire qu'il n'avait pas la main verte, effectivement, parce qu'en 2015, par exemple, il ouvre une centrale au charbon au centre de Hambourg. Ensuite, il se prononce contre le tram, la réintroduction du tramway dans la ville, pour éviter les grands travaux. Après, les organisations environnementales l'accusent de trafiquer les instruments de mesure sur les routes, les grands axes routiers pour réduire les taux de pollution. Et puis, il se prononce aussi contre la nationalisation ou le rachat des réseaux énergétiques.
Et c'est quoi exactement ce rachat des réseaux énergétiques ?
Alors ça, c'est très important pour ce que disent les experts du secteur, reprendre la politique énergétique en main, c'est-à-dire ne pas laisser les entreprises privées s'occuper de cette transition énergétique, mais de le racheter à la ville et de pouvoir effectivement faire une vraie politique. L'électricité, le gaz, le chauffage urbain, par exemple, tout ça, ça a été racheté, ça a coûté plus de 2 milliards à la ville. Mais aujourd'hui, tous les experts du secteur, même ceux qui étaient opposés au départ, disent que c'est vraiment comme ça qu'on peut vraiment faire une politique énergétique, une politique de transition, c'est-à-dire, par exemple, pour le chauffage urbain, remplacer donc la centrale au charbon par de l'hydrogène, par exemple, dans 15 ans.
Pour qu'on comprenne bien, les réseaux énergétiques gaz, électricité en Allemagne, c'était aux mains de compagnies privées.
Exactement, il y a 5 ou 6 grandes compagnies d'électricité en Allemagne. C'est très, très régional, ça peut être aussi communal. Et ça a été privatisé dans les années 90-2000. Et aujourd'hui, on fait marche arrière pour pouvoir justement reprendre en main cette politique de transition énergétique, parce que les privés, évidemment, leur intérêt, c'est d'abord de faire des bénéfices. La commune, c'est d'abord de réduire la pollution.
Le bilan en matière d'environnement d'Olaf Scholz est assez édifiant. Comment on explique cette ligne dure du futur chancelier dès qu'il s'agit d'écologie ?
Il a considéré toujours les écologistes comme des freins à sa politique sociale. C'est pour ça qu'il a complètement ignoré. Donc, dans sa politique normalement du logement, il a fait beaucoup de logements. Même l'opposition reconnaît qu'il a un bon bilan sur la politique du logement à Hambourg, puisqu'il a construit, il est passé de 3 000 logements construits en 2011 à 10 000 logements construits en 2018 quand il a quitté la mairie, ce qui est un bilan énorme. C'était évidemment pour freiner les loyers et la spéculation immobilière. Et lui, il voyait les écologistes comme des freins, puisque les écologistes réclamaient des chauffages verts, de l'énergie solaire sur les toits, énormément de critères qui auraient freiné son projet social.
Donc, on comprend à travers sa gestion de Hambourg qu'Olaf Scholz a toujours privilégié les questions sociales aux enjeux environnementaux. Et on trouve les racines de cette politique dans son parcours. Clément, toi, tu as enquêté sur sa jeunesse.
Oui, juste avant les élections, fin septembre, j'ai pu moi aussi me rendre à Hambourg, en l'occurrence pour rencontrer des vieux militants SPD qui avaient accueilli le jeune Olaf quand, à 17 ans, il a décidé de prendre sa carte au SPD.
Le Parti social-démocrate allemand.
Absolument, le Parti social-démocrate allemand. Et à l'époque, Olaf Scholz défend des idées plutôt de gauche, à gauche de la gauche du SPD. Comme d'ailleurs un peu sa section, il va très vite monter en puissance au sein des jeunes socialistes qu'on appelle les Jusos en Allemagne. Il va en devenir le vice-président au bout de quelques années. Et c'est vrai qu'à cette époque, il défend l'idée qu'il faut dépasser l'économie capitaliste. Aujourd'hui, des opinions qu'on ne retrouverait que dans un parti comme Die Linke, c'est-à-dire l'équivalent du parti mélenchoniste en Allemagne.
L'extrême gauche,
mais avec qui ne voulait pas faire une coalition, on l'a vu pendant la campagne. Et même à cette époque, il s'est passé quelque chose qui peut paraître très étonnant aujourd'hui. En 1984, le 4 janvier, Olaf Scholz, avec une délégation de jeunes socialistes, il est en déplacement à Berlin-Est pour rencontrer des hauts dirigeants du parti communiste de la RDA. Et c'est raconté, c'est marrant, le soir, au grand JT de la télévision d'État. Il faut que jeunesse se passe. Et à la fin des années 80, Olaf Scholz quitte les jeunes socialistes. Il débute comme avocat du travail et il va amorcer un virage pragmatique vers les idées qu'il défend aujourd'hui. Alors, il dit lui-même qu'il s'est désintoxiqué de ses idées radicales dès début, mais c'est un épisode sur lequel il revient très peu. C'est un homme austère, discret. Il aime pas parler du passé, en particulier de cette jeunesse. Mais il reste quand même quelque chose qui n'apparaît pas forcément de façon évidente, mais la chose a toujours eu ce souci de la classe moyenne, des travailleurs. C'est pas l'ami des patrons, comme Christophe l'a bien raconté dans notre article commun.
Oui, justement, Olaf Scholz a toujours eu conscience et une volonté de justice sociale, ça c'est important, et après avoir fait des réformes très critiquées avec Schröder dans les années 2000, qui étaient vues comme des réformes antisociales, il a suivi une politique sociale à Hambourg en construisant des logements sociaux. Et puis après, en tant que ministre du Travail, il a mis en place le salaire minimum en Allemagne, qui n'existait pas. Et puis, lors de la dernière campagne électorale, il a fait sa campagne autour d'un seul thème, c'est l'augmentation du salaire minimum horaire de 9,50 à 12 euros, ce qui était quand même une promesse électorale qui tiendra d'ailleurs. Donc, quelque chose qui est très important, hein, c'est une augmentation de salaire pour 10 millions de personnes en l'espace de quelques semaines après les élections.
Après avoir entendu tout ça, vous vous dites peut-être que ce n'est pas avec Olaf Scholz que l'Allemagne va enfin réussir sa transition énergétique. Et pourtant, l'austère hambourgeois pourrait bien rester dans l'histoire comme le chancelier du climat.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wenn Olaf Scholz zum Kanzler gewählt wird, wird er Klimakanzler sein.
Olaf Scholz sera le chancelier du climat. Celui qui dit ça n'est pas n'importe qui, c'est l'un des chefs de file des Grünen, les Verts allemands. Pourtant, Olaf Scholz n'a jamais été très tendre avec les écologistes.
À Hambourg, notamment, il les a toujours considérés comme des empêcheurs de tourner en rond. Bon, d'abord, là, il a commencé à Hambourg sans les écologistes, puisqu'il avait, pour son premier mandat, il a obtenu la majorité absolue, donc il pouvait gouverner tout seul. C'est d'où le nom, le roi Olaf. Et pour son deuxième mandat, il a dû prendre les écologistes pour gouverner. Il a tout fait pour les bloquer. Les écologistes, ce qu'ils ont réussi à faire à Hambourg en l'espace de 4 ans seulement, c'est quelques pistes cyclables. Mmh. Donc Olaf Scholz les considère comme des incapables, hein, c'est ce que me disaient beaucoup d'observateurs. Il les a complètement ignorés à Hambourg, et pour beaucoup d'observateurs et de politologues, ils pensent qu'il va les infantiliser à Berlin.
Bon, là j'avoue qu'entre la manière dont il considère les écologistes et son bilan à Hambourg, on a du mal à imaginer Olaf Scholz réussir la transition énergétique de l'Allemagne.
Oui, mais la donne a changé, Xavier, parce qu'il n'est plus dans cette situation de majorité absolue qu'il avait à Hambourg. Là, il a seulement 25% des voix, donc il doit faire avec les libéraux, mais surtout avec les Verts dans cette coalition. Et donc il est obligé de donner la priorité au climat. Et il a pris d'ailleurs une grosse décision avec les deux autres formations dans cette coalition de gouvernement, c'est d'avancer de 8 ans la sortie du charbon. Mmh. Alors que Scholz, jusqu'à présent, c'était plutôt un défenseur du charbon, des mineurs, c'est beaucoup d'emplois, et il voulait une sortie beaucoup plus lente, qui devait aller jusqu'à 2038. L'horizon, c'était 2038. Là, l'horizon, maintenant, c'est 2030. Il va falloir aller beaucoup plus vite. Donc, il va faire beaucoup plus de compromis à Berlin qu'à Hambourg.
Les Verts ont obtenu un programme très écolo.
L'Allemagne va doubler le nombre de ses éoliennes. Il y en a déjà beaucoup. En 2030, une voiture sur trois sera une voiture électrique.
L'enjeu dans les mois et les années à venir, c'est de savoir quand il y aura des arbitrages forts à rendre. Est-ce qu'il sera plutôt vers le social ou est-ce que ça se fera au détriment de l'écologie, plus vert? Il peut y avoir à ce moment-là des tensions au sein du gouvernement.
Oui, et puis l'urgence climatique n'est pas la même. Aujourd'hui, c'est le premier souci des Allemands, c'est la transition, et pas seulement les ménages, mais aussi les entreprises. Il ne faut pas oublier que pendant la campagne, le patron de Siemens lui-même a soutenu les Verts pendant la campagne. Mmh. Donc c'est une réalité, et Scholz est un pragmatique, un peu comme Madame Merkel. Donc il va s'adapter, évidemment, et il a dans son gouvernement des Verts qui vont lui mettre la pression, mais c'est quelqu'un de très intelligent qui va certainement faire avancer les choses.
Dans ce nouveau contexte, l'Allemagne d'Olaf Scholz peut-elle devenir la championne mondiale du climat?
En tout cas, c'est son objectif, hein. C'est ce qu'il a dit, qu'il voulait être les pionniers de la transition énergétique dans le monde. Donc l'Allemagne pourra même devenir le leader.
Worum es jetzt geht, ist dafür zu sorgen, dass wir nicht nur das ehrgeizige Ziel.
Actuellement, on a presque 50% de l'énergie quand même, l'électricité qui est fournie par les éoliennes et le renouvelable. Le grand défi, évidemment, c'est de faire tourner l'Allemagne, hein, qui est c'est la première économie d'Europe, la première industrie d'Europe. c'est de faire tourner ce pays sans nucléaire, puisque le nucléaire s'arrête l'année prochaine, mais aussi sans charbon, à partir de 2030. Donc ils ont encore le gaz comme énergie de transition, mais si on écoute les experts de l'énergie, notamment de l'Institut de conjoncture de Berlin, le DIV, la responsable explique qu'il faudra au moins multiplier par 4 les investissements dans le renouvelable pour atteindre les objectifs qu'ils se sont donnés.
Bien, on attendra les premières décisions du chancelier Scholz en matière d'environnement pour juger, et vous viendrez nous en reparler dans la loupe. Dankeschön, Christophe et Clément.
Merci Xavier, à bientôt.
Dankeschön, merci.
Christophe Bourdoiseau et Clément Dagnès, je vous encourage à lire leurs articles sur l'Allemagne et sur l'Europe. Vous pouvez les retrouver sur le site de l'Express. En ce moment, le premier mois d'abonnement numérique est gratuit. Profitez-en. Et pour retrouver tous les épisodes de La Loupe, rendez-vous sur votre plateforme de podcast favorite, Apple Podcasts, Spotify ou Podcast Addict, par exemple. Abonnez-vous pour être sûr de découvrir un nouvel épisode tous les matins. Si vous voulez nous aider, parlez de nous autour de vous. Et n'hésitez pas à nous écrire à notre adresse mail, laloupe@l'express.fr. Cet épisode a été fabriqué avec Charlotte Baris, Margot Lanuzel, Alice Ninin, Mathias Pengili et Lison Verrier. Retrouvez-nous lundi pour passer un nouveau sujet à la loupe.